Bah, tout simplement, ils savent pas qu'on est là.
Oui, je parle. J'ai été conditionné à ça, en fait.
Moi, je me sens très bien. J'adore parler.
Moi, je sais comment me faire comprendre.
C'est possible que je dis des choses qui soient pas tout à fait exactes.
Les sourds et les sourdités sont un cas absolument unique dans l'espèce humaine.
Sourd mais pas muet, l'épisode 1, l'école.
Je m'appelle Pauline, j'ai 34 ans.
J'ai rencontré Pauline en 2015 et elle est assez vite devenue une amie.
Actuellement, j'habite près de Toulouse, dans le Tarn.
Elle est aussi mon guide dans le pays des sourds et elle a bien voulu oraliser pour mon document sonore.
Je suis née sourde. Mes parents l'ont découverte quand j'avais 2 ans et demi à peu près. Après, je ne suis pas née sourde profonde, je suis née avec une... J'ai eu des appareils. J'ai tout de suite été chez les orthophonistes, les profs de soutien jusqu'à mes 18 ans. Par contre, vers l'âge de 8-9 ans, la sourdité a régressé. Donc à l'oreille gauche, j'entendais plus rien. Et à l'adolescence, nouvelle baisse auditive. Et l'oreille droite aussi qui a vachement baissé. Et puis vraiment maintenant, une sourdité profonde. Après, je porte encore un appareil de temps en temps à l'oreille droite. Et avec l'appareil, ça rattrape pas mal. Mais voilà.
Pauline habite dans une grande maison avec 5 colocataires, dont l'un est entendant. D'où la musique à mon arrivée. Le son que vous entendez derrière moi, enfin plutôt que vous n'entendez pas, il a été pris lors d'une réunion de cette colocation. Il y a donc 6 personnes autour de la table en grande discussion pour prendre des décisions sur la vie à plusieurs. Et puis il y a moi et mon enregistreur.
Ce que je fais dans la vie, toujours un peu difficile de répondre à ça. J'ai du mal à me définir par rapport à un métier. Souvent, quand on me demande c'est quoi ton travail, je ne suis jamais trop à l'aise pour répondre, mais bah, je travaille comme journaliste, réalisatrice. Après, c'est mon occupation, on va dire, principale, mais en même temps pas tant que ça, parce que je fais plein de choses en dehors. Beaucoup de choses dans le militantisme, que ce soit par rapport aux droits, à l'accessibilité pour les personnes sourdes, que ce soit aussi par rapport au militantisme plus global, par rapport à tout ce qui est la prise de conscience, en tout cas pour moi, mais aussi avec les autres, d'un autre mode de vie, de trouver d'autres comment pourrais-je dire, c'est vachement dur. Bah, que le système, en tout cas tel qu'il est actuellement, on va dire le système général tel qu'on vit ici, en tout cas en France, parce que bah, je suis née en France, j'ai grandi en France, donc c'est ce qui, ça fait partie de ma culture, ça fait partie de mon état. Et, mais en tout cas, je ne me retrouve pas du tout dans les systèmes qui sont proposés, dans les valeurs, dans l'organisation politique et sociale, etc. Et j'avoue qu'encore aujourd'hui, à 34 ans, c'est un peu un combat permanent pour moi. Et j'ai un peu l'impression parfois d'être un peu une éternelle adolescente. Et en même temps, je me dis non, c'est juste un refus d'acceptation.
Antoine, lui, est venu faire un service civique dans le lieu où je travaillais et pour le moment, il y est resté.
Bon, je m'appelle Antoine, j'ai 28 ans et actuellement, je vis à Tulle, en Corrèze. Hein. On va commencer par le tout début, vers la maternelle. C'est le moment où mes parents ont découvert mon handicap et la surdité. Mes parents, déjà, pour nous préciser, surtout je te entendant. Et on a découvert que j'étais sourd parce que la nounou avait remarqué que j'étais le seul bébé à ne pas avoir levé la tête quand un hélicoptère passait devant la maison. Donc, on devait se dire, bon, ben, ce petit garçon, il est bizarre, et puis voilà. Mais elle le dit à ma mère. Et donc, je passe dans les hôpitaux pour faire toute une batterie de tests. D'abord, on fait une opération pour vérifier si j'ai pas de loup dans les oreilles. Et ensuite, on me fait des tests avec un ORL. En me sent spécial des oreilles, donc il fait passer le bruit sonore et soulève la main. Et donc, on m'a diagnostiqué que j'étais sourd à l'âge de 3 ans. Et c'est en ce moment-là que j'ai commencé à porter mes appareils. Et là, le médecin explique à mes parents que c'est extrêmement important de garder le contact avec l'enfant, de lui parler. Tout le temps en communication avec lui, même si je ne comprenais pas. Voilà. Mes parents finissent par trouver une école primaire où ils accueillent des classes de sourds et c'est à Angers. Donc je déménage de Nancy pour aller à Angers. En fait, j'ai le sentiment que toute ma vie, en fait, ça a été de suivre toutes les structures qui proposaient des dispositifs adaptés.
En ce qui concerne l'éducation des enfants sourds en France, il y a plusieurs systèmes. Donc l'éducation bilingue, les classes bilingues, qui sont tous les systèmes de l'éducation nationale. Sinon, il y a aussi toutes les institutions spécialisées qui relèvent du ministère de la Santé. Donc ces instituts spécialisés, ils existent depuis très longtemps. C'était les premières écoles, en fait, d'enfants sourds. Et c'est notamment le plus ancien, l'INJS, l'Institut National des Jeunes Sourds à Paris, l'Institut Saint-Jacques. Et en fait, donc, eux, ils relèvent de la santé. Mais du coup, le programme éducatif n'est pas le même que dans l'éducation nationale. Souvent, un niveau plus bas et que l'éducation, elle se fait un peu, c'est un peu n'importe quoi. Bon, il y a un prof qui s'est un peu signé, qui connaît les maths. Bon, il va enseigner les... Enfin, qui est prof de maths, donc qui s'est un peu signé. Bon, il va enseigner les maths en baraque. Non, il y en a un autre qui n'a pas le diplôme de prof, mais qui est super signant, qui est bilingue, donc on va l'embaucher, qui est signant, mais il n'est pas forcément hyper pédagogue. C'est un peu une espèce de... Voilà, de marmites comme ça, où on met les ingrédients qu'on peut, et puis on fait un plat, on ne sait pas trop ce que ça va donner et tout. Du coup, il y a beaucoup d'échecs scolaires, il y a beaucoup de niveaux bas. Et pendant longtemps aussi, ces institutions, pendant très longtemps, amenaient les sourds à aller vers de l'apprentissage, vers des métiers manuels. Donc pendant ébéniste, carreleur, prothésiste dentaire... Ouais, surtout autour les plantes aussi, pour les jardins et tout, quoi. Mais j'ai plusieurs témoignages de proches de moi, de mes amis, qui me racontent que quand ils étaient là-bas à l'internat, quand ils racontaient leurs conseils pédagogiques, ah mais moi j'ai envie de faire ça, mais non, c'est pas possible, t'es sourd, tu peux pas, enfin, arrête de rêver quoi.
Reprenons la conversation avec Antoine, il nous raconte le collège.
En intégration individuelle avec les internes. C'est-à-dire, j'étais dans une classe entendante, mais il y avait un professeur de NPC.
Le code LPC, ou langage parlé complété, est un ensemble de signes manuels destinés aux sourds, qui aident à l'apprentissage et à la compréhension de l'expression orale en français. Le code LPC est un code manuel autour du visage, complété de la lecture labiale. Il permet de visualiser la totalité du message oral et de lever les ambiguïtés de la lecture labiale.
Il y a aussi un professeur de soutien qui venait me donner 2 heures par semaine pour que je puisse rattraper tout ce qui a été fait en mathématiques, en français, voilà. Au collège, c'était la difficulté qui augmentait progressivement. On avait de plus en plus, de matière à apprendre, de choses à apprendre. Et j'ai commencé à accumuler une certaine fatigue liée à ma concentration parce que j'avais le codeur LPC qui venait, mais aussi je suivais tout ce que disait le professeur à l'oral. Et ça commençait à faire une charge de travail énorme. D'un côté que ma mère me faisait travailler le français sans relâche tous les soirs quasiment. Compris l'anglais, pour que je puisse avoir toutes les portes ouvertes possibles quand il faudra que je cherche un travail. Et voilà.
Il y a souvent un amalgame entre la capacité d'apprendre à lire et à écrire et la capacité, enfin le dispositif qui est là pour enseigner, quoi. Il y a un chiffre qui revient tout le temps. Tout le temps, qui menace 80% d'analphabètes chez les sourds, d'illettrisme chez les sourds. Et souvent, la manière dont c'est amené, c'est comme si les sourds ne peuvent pas apprendre à lire et à écrire alors qu'il s'agit plus d'une forme d'enseignement, quoi. Dans l'éducation nationale, il y a ce qu'on appelle l'intégration. Donc l'enfant, il est placé souvent seul, parfois 2, 3, en immersion, mais souvent très, très souvent, la majorité des cas tout seul, dans une classe d'enfants entendants, des interprètes. Je n'ai pas de chiffres vraiment fiables, mais il n'y en a pas de toute façon. Très rarement, il y a les AVS. Mais c'est merveilleux, les AVS. Ça sauve l'école, soi-disant. Donc les AVS, les auxiliaires de vie sociale, qui sont là pour accompagner l'enfant handicapé à l'école. Sauf que le sourd, il a surtout besoin de pouvoir comprendre ce que dit le professeur à 100%. Très souvent, les AVS, soit elles sont elles-mêmes sourdes, donc elles ne peuvent pas suivre ce que dit le professeur, soit elles sont... ce n'est pas forcément couramment, quoi. Il va se retrouver à avoir un rôle d'interprète et de réexplication. La question aussi de l'enfant sourd tout seul dans une classe d'entendant. Comment s'identifier, comment se situer, comment se sentir dans un environnement, avoir sa place, comment trouver sa place en fait dans cette classe-là, quoi. Dans tous les cas, on a besoin aussi de grandir, d'avoir des pairs, d'avoir des gens avec qui on peut aussi avoir un peu de miroir, aussi un minimum, quoi. Pouvoir communiquer à l'aide, de pouvoir jouer, tout ça, en étant à l'aise, quoi. L'intégration, donc c'était commencé en 2005, où ça a été vraiment encouragé, favorisé par la loi 2005 des personnes handicapées. Mais en fait, pour beaucoup d'enfants sourds, c'est un échec, parce qu'au bout d'un moment, ils se retrouvent isolés, tout seuls, dépression, décrochage scolaire.
Aussi le collège, c'est un autre changement au niveau social. C'est le moment où tu commences à devenir plus autonome, à intégrer la vie en société. Donc c'est le moment où tu commences à inviter tes amis à faire des fêtes, à rencontrer tes premiers amours. Et moi, Bon, je faisais que travailler. Bon, même, d'une part, avec mon caractère introverti, j'avais vraiment du mal à m'intégrer dans un cercle pour ne pas me paraître trop isolé, je suivais un petit groupe comme ça. Mais bon, sur le terme, c'est pas très glorieux parce qu'en fait, ils me traitaient comme un chien. Bon, ça les arrangeait que je sois là parce que j'allais chercher la balle. Hein. Donc voilà, j'étais pratiqué.
Alors je me présente, je m'appelle Bastien. Ah oui, je vais avoir 27 ans en décembre.
Bastien, lui, n'est pas oraliste. Il s'exprime en langue des signes. Pour enregistrer son histoire, j'ai fait appel à Igor, qui est interprète.
Alors moi, j'étais dans une école avec les sourds, uniquement avec les sourds. Ça s'appelle le CEJS, le Centre d'éducation pour jeunes sourds à Arras. Donc à l'école, en fait, comment ça marchait ? En fait, c'était une école qui était tenue autrefois par les bonnes sœurs. Dans cette école, en fait, c'est une école spécialisée, hein, parce que c'est le ministère de la Santé qui est la tutelle, qui le finance, quoi. Du coup, ils ont une pédagogie adaptée. Il y a des élèves qui vont avec les entendants, qui vont de temps en temps dans l'école. Ils cherchent la meilleure pédagogie possible, quoi. Donc, on peut dire que c'est un enseignement standard, quoi, normal, quoi, on va dire. Hein. Ce que je remarque, moi, c'est dans les écoles spécialisées, en fait, les sourds qui, souvent, en fait, sortent de ces écoles-là, n'ont pas un bon niveau en français à l'écrit, quoi. Dans les écoles bilingues, en fait, c'est sous la tutelle de l'éducation nationale, ils ont un bien meilleur français à la sortie, à la fin de leur scolarité, quoi. Quand je travaillais comme animateur d'enfants, j'ai remarqué qu'effectivement, les cours, c'était pas du tout la même technique et pas du tout les mêmes méthodes, quoi. Et je me suis dit, tiens, c'est dommage parce que... Comment c'est dur à l'expliquer, mais par exemple, quand ils montraient des choses aux entendants, les sourds, ils disaient non, nous, on voudrait une autre méthode, passer par l'image, par la langue des signes, d'abord et ensuite l'écrit, quoi. Et dans les écoles spécialisées, en fait, il y avait une grosse confusion, c'était langue des signes et oral en même temps, quoi. Et ça va pas du tout, en fait, pour ensuite passer à l'écrit, quoi.
Il existe en France un système de classe bilingue. Il faut savoir qu'il n'y a que 4 endroits dans la région parisienne, Poitiers, Lyon et Toulouse, qu'il est possible d'avoir accès à une filière complète de la maternelle à la terminale en langue des signes. Et puis il existe dans d'autres villes des classes correspondant aux primaires. Beaucoup de parents se battent pour faire ouvrir des classes dans leur ville. Aucun des sourds que vous entendez dans cet épisode n'a eu accès à une école bilingue. Une classe bilingue, c'est une classe dans laquelle l'enseignant ou les enseignants maîtrisent parfaitement la langue des signes française. Toutes les matières et tout le temps scolaire se fait en langue des signes. La langue des signes est reconnue comme langue première des enfants. Le français est reconnu comme langue seconde des enfants et il est enseigné uniquement à l'écrit. Les enfants bénéficient d'une méthode d'apprentissage du français non liée à des méthodes d'orthophonie et bénéficient également des cours d'un enseignement de la langue des signes française au même titre que nous avons, nous les entendants, des cours de français.
Euh, à Rennes, bah, c'était un petit peu différent, quoi. C'était source de confusion parce que j'étais un peu avec les entendants, un peu avec les sourds. Par exemple, pour l'histoire, le sport, etc., j'étais avec les entendants. Et donc c'est là où bah, j'ai découvert un petit peu, à la maison aussi, hein, mes parents sont entendants, hein. Donc je vivais aussi avec des entendants au quotidien, mais donc j'ai fait mon parcours comme ça en fait, hein, et puis après, bon, bah, je vivais à la campagne, effectivement à la campagne il y a toujours des activités manuelles, mais je me suis dit ouais, l'ordinateur, moi j'avais envie de jouer, et je me suis dit tiens, donc j'ai commencé à m'y intéresser, à trafiquer, à bricoler des ordinateurs, et puis je demandais à mes parents, moi je voudrais que vous m'achetiez un ordinateur, et puis il me fait bah oui, mais pour ça il faut que bah, tu nous apportes aussi des choses, quoi, il faut que tu le mérites, quoi, tu vois. Et donc bon, ben bah, du coup j'ai fait des choses pour eux, ils m'ont acheté un ordinateur, et puis du coup j'aurais dit à un moment donné que je voulais étudier l'informatique, électronique et informatique, donc je me suis orienté en électronique, et puis ensuite j'ai bifurqué en informatique pour créer des applications, des logiciels, des sites internet, des trucs comme ça, et ça a été quand même assez difficile, hein, parce qu'il fallait de faire intervenir un interprète, et j'avais combien d'heures j'avais. À peu près, hein, 38 heures de cours hebdomadaires, de la théorie, de la pratique, du coup l'interprète c'était pour 12 heures en fait, hein, hebdomadaires, du coup j'étais un peu frustré. C'était sur un cours théorique, il y avait de la pratique aussi, l'interprète était là aussi pour la pratique, et à un moment donné je lui ai dit sur la pratique, tu sais, j'ai pas besoin, c'est très visuel, je peux prendre mes repères par moi-même, je suis autonome. Donc l'interprète n'est plus venu, et en fait c'est le prof qui était en difficulté. Je dis mais pas moi, c'était le prof, quoi. Et j'ai dit, mais non, mais montre-moi, pointe-moi ce qu'il faut faire. Et le prof, il était désemparé au départ, quoi. Puis après, je lui ai montré, mais tu vois, c'est possible. Alors, on peut se passer d'un interprète pour la théorie. Ok, parce que ça, c'est très important pour moi, pour comprendre vraiment les finesses, mais pas pour la pratique. Et donc, c'est à toi, visuellement, de t'adapter à moi, quoi. C'est pas là, moi, qui vais m'adapter à toi. J'aimais beaucoup, hein, ce prof, mais moi je voulais en fait lui prouver à lui pour qu'il montre aux autres que c'est possible et que les autres du coup s'habituent aussi à ça. Il n'y a pas longtemps, quand je me suis installé à Toulouse, j'ai compris et j'ai expliqué à mes parents, j'ai dit en fait moi j'ai deux cerveaux, quoi, et du coup j'ai l'habitude de parler, de signer, et je sais plus en fait, je sais même plus si je parle, si je signe, et quand je dois passer à l'écrit c'est source de troubles en fait, quoi, et donc à chaque fois je suis perdu en fait, parce que j'ai sur des certaines habitudes, quoi, mon monde c'est le monde des sourds, quoi. C'est le monde des sourds, quoi. C'est le monde des sourds, quoi.
C'était l'épisode 1, l'école. Merci à Pauline, Antoine et Bastien. Merci à Igor pour l'interprétation, merci à Soutou The Traveler pour la musique. Sourd mais pas muet, une immersion dans le pays des sourds proposée par Violaine Brossard.